Courbez-vous avec moi, on va remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Merci, Père Céleste, pour ta parole. Merci pour cette espérance qu'on a, Seigneur, que bientôt tu vas venir nous prendre. Bientôt, Seigneur Dieu, tu vas nous prendre avec toi dans le ciel. Bientôt, on va être changé, Seigneur. En un clin d'œil, on va monter au ciel avec toi, Seigneur, et on va avoir des corps incorruptibles, Seigneur Dieu. Plus de péché, plus de maladie, plus de souffrance. La gloire éternelle en ta présence. Oui, on aspire après ce jour, Seigneur. Viens bientôt. Guide-nous, Père, dans ta parole ce matin. Parle à nos cœurs. On te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Alors, ce matin, ce que je voudrais faire avec vous, c'est, ni plus ni moins, un survol de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Le verset clé de cette lettre-là, ni plus ni moins, la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Thessaloniciens se trouve au chapitre 4, le verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Alors, si, comme moi, vous suivez l'actualité, vous avez plusieurs raisons d'être préoccupé par des événements qui se passent dans notre monde, dans notre pays, même dans notre province. Préoccupé, même, c'est peut-être pas le mot. Ça pourrait être aussi inquiet. Certains pourraient être inquiets. D'autres, comme moi, par exemple, d'une certaine façon, pourraient être réjouis parce que les événements qu'on voit en ce moment dans notre monde sont certainement précurseurs du retour du Seigneur. Le Seigneur vient bientôt, et la question qui se pose, c'est « Sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts? » Au chapitre 1, le verset 2, la lettre aux Thessaloniciens, c'est la première lettre que l'apôtre Paul écrit à une église, ou la première de toutes ses lettres, et certains même prétendent que c'est le premier écrit du Nouveau Testament. On peut lire ceci. Chapitre 1, verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Alors, tout d'abord, l'apôtre Paul y rend grâce pour tous les chrétiens de Thessalonique. Pourquoi? Parce que leur foi est agissante. Alors, il ne semble pas que ce soit des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui sont à l'œuvre seulement le dimanche pour venir à l'Église. Ils sont à l'œuvre continuellement. La foi, l'amour et l'espérance, il mentionne ces trois aspects-là, ces trois vertus-là, sont les ingrédients de base pour nos vies chrétiennes. La foi, l'amour et l'espérance. Les chrétiens de Thessalonique était l'objet d'action de grâce de l'apôtre Paul et de ses collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il était consacré, à exercer ces vertus-là, la foi, l'espérance et l'amour. Premièrement, la foi. L'auteur du livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 6, l'auteur du livre aux Hébreux est décrit dans sa plus simple expression, c'est quoi la foi? Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, il mentionne trois choses. S'approcher de Dieu, premièrement. Deuxièmement, croire qu'il existe. Et troisièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui donne le salaire de ceux qui le cherchent. Ici, ceux qui le cherchent, c'est pas des inconvertis qui le cherchent pour le salut, c'est des chrétiens. Pourquoi c'est pas des inconvertis qui le cherchent pour le salut? Parce que l'apôtre Paul dit que nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Ce sont pas les hommes qui frappent au cœur, à la porte du cœur de Dieu pour que Dieu les laisse rentrer dans le ciel. C'est Dieu qui frappe à la porte du cœur des hommes pour entrer dans leur cœur, en la personne du Saint-Esprit. Alors, nul ne cherche Dieu. Et la foi, les croyants, l'apôtre, l'auteur du livre aux Hébreux en donne des exemples, ce sont des croyants. L'auteur du livre aux Hébreux les nomme, en nomme quelques-uns. Ces personnes-là sont devenues célèbres à cause de leur foi pour avoir fait confiance à Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'œuvre de votre foi, c'est la foi des enfants de Dieu envers leur Père Céleste. Comme vous le savez, cette foi est impossible sans la foi qui sauve. Alors, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, la foi, c'est la foi des croyants, de ceux qui cherchent le secours, des croyants qui cherchent le secours en Dieu. L'amour, il nous parle d'amour en deuxième chose. Le travail de votre charité ou de votre amour, l'amour, c'est la vertu suprême. C'est par elle que Dieu nous a sauvés, car Dieu a tant aimé le monde. Si nous voulons imiter le Seigneur, c'est la première vertu à cultiver, c'est l'amour. Cet amour n'est pas passif, c'est pas simplement un sentiment, une émotion. J'aime mes frères et sœurs en Christ et j'agis pour eux et je suis prêt même à me sacrifier pour eux. C'est de cet amour-là que l'apôtre Paul parle. Il dit ici, l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3, le verset 17, là, je vois-tu trop vite, Yolande? Il dit ceci, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? » Alors, la foi, l'amour et finalement, l'espérance. L'espérance, c'est ce qui concerne notre destination, la fin de notre pèlerinage, la ligne d'arrivée sur la terre, notre pèlerinage sur la terre. Toujours dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, le verset 13, encore là, c'est l'auteur, il parle des héros de la foi, de ceux qui se sont rendus célèbres pour avoir fait confiance à Dieu. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, ils ont vu, c'est pas qu'ils ont vu avec leurs yeux la ligne d'arrivée, mais c'est en espérance qu'ils ont vu la récompense, la ligne d'arrivée, puis la récompense que Dieu a en réserve pour eux. Alors, ce qui a permis à ces héros-là de la foi d'accomplir de grandes choses, c'est qu'ils avaient les regards fixés sur la ligne d'arrivée. L'espérance de la gloire dans la présence du Seigneur. Revenons à 1 Thessaloniciens au chapitre 1, les versets 4 et 5. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alors, la source du salut, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? C'est Dieu. Il nous a élus, il nous a choisis. Le moyen qu'il a utilisé, c'est sa parole. La foi, ça vient par la parole de Dieu. Si on n'a pas la parole de Dieu, on ne peut pas arriver parfaitement au salut. Dieu se révèle dans la création, mais la révélation complète de Dieu, c'est dans sa parole. Et celui qui ouvre nos cœurs, ou par qui notre cœur devient, s'illumine, bien, c'est par le Saint-Esprit. C'est ça que ce passage-là nous dit. Alors, Dieu nous a choisis. Oui, bien sûr, on a une réponse à donner, mais c'est Dieu qui appelle les humains. Au verset 9 maintenant, 1 Thessaloniciens 1, 9, il dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Alors, la conversion des Thessaloniciens, elle a porté du fruit, leur conversion. Ils ont abandonné les idoles, puis ils se sont mis à l'œuvre pour le Seigneur. Bon, ici, la description, c'est la description de la véritable conversion. Abandonner les idoles pour servir Dieu. Le premier requis pour la conversion, c'est la reconnaissance de la perdition. À cause du péché, on était condamné à la mort éternelle. On était condamné d'être séparé de Dieu. Il faut réaliser que nous étions comme des condamnés à mort. Le couloir de la mort, avez-vous déjà vu des reportages sur ça? Les États qui ont encore la condamnation à mort, il y a un couloir spécial avec des cellules pour ceux qui sont condamnés, qui sont en attente. C'est comme ça qu'on était. Et c'est pas confortable. C'est pas confortable. Après la repentance, qu'est-ce qui arrive? Bien, là, c'est la marche. Toujours dans 1 Thessaloniciens, maintenant au chapitre 2, les versets 11 et 12, la fin du verset 11, il dit « Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Alors, il dit pas seulement qu'il leur demande, il vous conjure. Vous conjurant, ça veut dire là, vraiment d'insister sur la marche chrétienne. Alors, il faut marcher étant donné que on sait qu'on est dans les derniers temps, qu'on voit le fil d'arrivée, on commence à voir le fil d'arrivée. Et à cause de ça, l'apôtre Paul y insiste pour leur dire de marcher d'une manière digne de Dieu. Alors, non seulement la conversion nécessite la repentance, mais aussi doit conduire à une marche différente. Une marche, l'apôtre Paul la qualifie, digne du Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 1. L'auteur du livre aux Hébreux, il va plus loin que ça encore. Il dit au verset 12:1, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors les héros de la foi qu'on voit pendant tout le chapitre 11 du livre aux Hébreux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Alors, non seulement devons-nous marcher d'une manière digne du Seigneur, mais ici, l'auteur des Hébreux dit qu'on doit courir avec persévérance. Courir, ça veut dire aller plus vite qu'à marcher, puis avec persévérance, ça veut dire de ne pas arrêter, de continuer jusqu'au fil d'arrivée. On voit les courses aux Olympiques, les marathons, les derniers quelques 100 mètres ou 100 pieds, les coureurs sont exténués, ils ont de la misère à mettre un pied devant l'autre, mais ils persévèrent. C'est ça, la persévérance. Maintenant, au chapitre 2, Paul va résumer son attitude envers les chrétiens de Thessalonique. Qu'est-ce que ça a été son approche? C'est ni plus ni moins le portrait de ce qu'un serviteur du Seigneur devrait être. Bon, alors, il y en a pour les chrétiens de l'Église de Thessalonique. Maintenant, il y en a pour les dirigeants des églises. Puis on va voir plus loin qu'il y en a aussi pour les gens qui sont incrédules. Alors, l'apôtre Paul, il va mentionner 5 choses au sujet des dirigeants, des anciens, plus précisément, peut-être même des prédicateurs. Première des choses, il dit, c'est dans la souffrance. C'est dans la souffrance que Paul exerce son ministère. C'était très difficile. Il accepte et il continue son ministère sans broncher. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur Dieu. Alors, au chapitre 2, le verset 2, on peut lire ceci. « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Alors, l'apôtre Paul, avant de venir à Philippe, il est allé à Thessalonique. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé à Philippe? Il s'est fait outrager. Il était outragé. Les anciens, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs sont au front du combat chrétien. Ils doivent être prêts et équipés pour ça, parce qu'ils sont des cibles privilégiées pour l'adversaire. Puis, l'apôtre Paul, il a subi des outrages, il a été persécuté. Puis, il savait que c'était normal. Pour lui, il considérait que c'était normal parce que l'adversaire veut l'empêcher d'exercer son ministère. Et non seulement que ça, c'est vrai non seulement pour les anciens, les prédicateurs, mais aussi c'est vrai pour tous parce que au chapitre 3, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, il dit « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Alors, la situation actuelle qu'on vit, comme par exemple ici au Québec, tous les événements qu'on voit, qui viennent attaquer notre foi chrétienne, qui viennent attaquer nos libertés religieuses, cette situation-là, elle ressemble à ce que probablement il se passait à l'époque du premier siècle, où les chrétiens étaient, il y avait des tribulations, il y avait de l'adversité, puis étaient même persécutés. Alors, l'apôtre Paul, il s'attend à ça, il vit ça, il s'attend à ça, puis il s'en remet à Dieu. Puis nous, dans ces situations-là qu'on commence à vivre, puis que peut-être on va vivre d'une façon plus intense, il faut s'en remettre à Dieu. La deuxième chose que l'apôtre Paul mentionne au sujet de son ministère, sa prédication ne doit pas être faite en fonction de plaire aux hommes. Elle doit s'appuyer sur l'Évangile sans erreur, sans motif impur et sans fraude. Il qualifie ça de plaire à Dieu. Il dit sa prédication doit plaire à Dieu. Alors, l'ancien ou le prédicateur, quand il vient en avant, il parle à ses auditeurs, mais il y a un auditeur qui est là, surtout à qui il faut qu'il plaise, c'est Dieu. Alors, quand le prédicateur descend de la chair, les croyants ne doivent pas dire « Waouh, ça c'est un grand prédicateur », mais plutôt dire « Dieu est grand, gloire à Dieu ». Le lendemain, les auditeurs devraient avoir oublié peut-être celui qui prêche, mais pas avoir oublié le message de la parole de Dieu. Troisième chose, au sujet de la conduite exemplaire de Dieu, la conduite qu'un ancien devrait avoir, il dit, ça j'ai trouvé ça curieux quand même, pas de paroles flatteuses. Pas de paroles flatteuses. Souvent, certains prédicateurs utilisent la flatterie pour gagner leurs auditeurs. C'est quoi la flatterie? C'est à dire à un tel, Philippe, ça c'est vraiment un bon gars. Ça c'est vraiment un modèle, c'est vraiment un exemple. Il n'y a pas un meilleur gars que lui. C'est ça la flatterie. Vous remarquerez que quand les prédicateurs font ça, c'est pour gagner les auditeurs, mais pas les gagner à Dieu. Pour les gagner souvent à leur propre personne, pas pour la gloire de Dieu, mais bien des fois pour la gloire, leur propre gloire. Alors, l'apôtre Paul mentionne pas de flatterie. On ne vous a pas flatté. C'est avec la vérité qu'on vous a, c'est la vérité qu'on vous a prêché. On n'a pas essayé de vous gagner en vous faisant des compliments et en vous disant que vous étiez beau puis gentil. On vous a annoncé l'Évangile, la vérité, pour que vous vous repentiez. Quatrième chose, pas de cupidité. Paul le répète à plusieurs fois dans ses épîtres. Dans son ministère, l'argent, ce n'est pas un motif. Au chapitre 2, le verset 5, à la fin du verset 5, il dit « Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. » Alors, qui peut être témoin de ça, la cupidité? Bien, des fois, si on s'appelle Séraphin Poudrier, c'est assez visible de l'extérieur, mais bien souvent, c'est un motif qui est caché dans le cœur, mais il prend Dieu à témoin parce que justement pour ça, parce que ça peut être un... Alors, quand vous voyez un prédicateur, on en voit de ça, si vous regardez sur Internet, des fois, des prédicateurs qui ont des maisons qui valent des millions, des dizaines de millions, qui se promènent en jet privé, l'opulence extrême, ça, c'est pas normal. C'est loin d'être le modèle que l'apôtre Paul donne. L'abondance, c'est pas un péché. L'abondance, c'est la bénédiction divine. Mais ici, ce que l'apôtre Paul dénonce, c'est l'opulence extrême. Ça, c'est pas normal. Alors, l'apôtre Paul, il dit, on n'a jamais eu la cupidité pour mobile. L'apôtre Paul, bien souvent, il faisait son ministère à ses propres frais. Finalement, la dernière chose, l'apôtre Paul, il dit, c'est en travaillant, au verset 7 et au verset 11, je ne te les ai pas donné, Yann, c'est là, mais c'est en travaillant nuit et jour que Paul et ses co-ivriers ouvriers ont œuvré sans chercher à dominer avec une autorité extrême, mais plutôt, il dit au verset 7, comme une nourrice prend soin de ses enfants, et au verset 11, comme un père pour ses enfants. Alors, l'apôtre Paul, dans son ministère, dans sa relation avec les frères et sœurs de l'Assemblée, il était comme une nourrice qui prend soin de ses enfants. Une nourrice qui prend soin de ses enfants, c'est tendre. Comme un père qui prend soin avec ses enfants, c'est bienveillant, c'est protecteur, c'est pourvoyeur. Bon, maintenant, revenons à la marche chrétienne. L'apôtre Paul va détailler qu'est-ce que c'est l'œuvre de la foi, l'amour, l'espérance. Il va mettre de la viande autour de l'os, autrement dit. Au chapitre 2, verset 13, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Alors, par la foi, on croit que les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Ce qui a permis la conversion des Thessaloniciens, c'est qu'ils ont reçu la parole, non comme la parole des hommes, mais comme étant vraiment la parole de Dieu. Non seulement ça leur a permis leur conversion, mais aussi ça leur a permis leur croissance spirituelle. Quand vous lisez les Saintes Écritures, est-ce que vous réalisez que c'est Dieu qui parle? Quand vous lisez les Saintes Écritures, est-ce qu'il y a des choses que vous dites, « Ouais, ça, c'est pas grave, là. » Quand Dieu parle, c'est tout le temps grave. Quand Dieu parle, c'est tout le temps sérieux. Puis quand on lit la parole de Dieu, puis quand on marche dans nos vies chrétiennes, s'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, bien, il ne faut pas dire que ce n'est pas grave, parce que c'est pas ça, c'est grave. L'apôtre Paul, au chapitre 4, Thessaloniciens 4, verset 8, il dit ceci, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. » Alors, si on dit ça, c'est pas grave, ça, je m'occupe pas vraiment de ça, bien, ça, c'est rejeter Dieu, puis c'est rejeter la parole de Dieu, puis c'est rejeter aussi le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que la parole de Dieu prenne un sens dans nos cœurs, pour que nos cœurs saisissent la parole de Dieu puis la comprennent. La foi des Thessaloniciens a été une grande source d'encouragement pour Paul. Au chapitre 3, verset 8, il dit « Car maintenant nous vivons parce que vous demeurez fermes. » Alors, l'Église de Thessalonique était une Église quand même assez modèle. Mais est-ce qu'ils sont arrivés à la perfection? Regardez au chapitre 4, le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous en prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il dit, « Hey, là, l'heure est grave. » Puis là, l'apôtre Paul, il a toujours en tête le chapitre 4, le verset 13. Il est toujours en tête de répondre à la question des chrétiens de Thessalonique au sujet de qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui dorment. L'apôtre Paul, il leur dit, « Là, ce n'est pas le temps de se traîner les pieds. C'est le temps d'aller de progrès en progrès, de marcher de progrès en progrès. Est-ce que moi, ça fait 45 ans que je suis chrétien, je suis correct, je suis rendu au top, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Il dit de marcher de progrès en progrès. La ligne d'arrivée, quand il y a une course, celui qui gagne, c'est toujours une fois qu'il a franchi la ligne d'arrivée, jamais avant ça. Alors, l'apôtre Paul, il dit de marcher de progrès en progrès. Alors, premièrement, la sanctification plus. J'ai appelé ça la sanctification plus. Au chapitre 4, le verset 3. Alors, on a vu tantôt qu'il s'était converti en abandonnant les idoles muettes pour servir le Dieu vivant et vrai. Maintenant, il dit, au chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alors là, la marche chrétienne, il leur dit qu'il faut marcher, même courir. Mais là, il va détailler un peu pour être sûr que tout le monde comprend. La première chose qu'il dit, c'est posséder son corps. Puis là, de quoi il parle? De la débauche, de l'impureté, puis des convoitises passionnées. Alors, moi, dans ma tête, ça sonne péché sexuel. C'est la question du péché sexuel. Est-ce que dans notre époque, est-ce qu'on est sollicité par le péché sexuel? Est-ce que vous voyez des choses qui vous sollicitent sexuellement? Si vous écoutez la télévision, des nouvelles, la publicité, continuellement. La manière de s'habiller de certaines personnes, c'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui, sauf que dans ce temps-là, ce n'était pas l'Internet, c'est d'autres moyens. Deuxième chose qu'il parle, c'est l'honnêteté. Puis, dans l'honnêteté, il mentionne deux choses, la fraude puis la cupidité. La fraude puis la cupidité. La fraude, c'est faire des choses malhonnêtes. C'est moi, avant d'être converti, je fraudais le gouvernement, je fraudais mon employeur. Puis la cupidité, bien, c'est le désir d'en avoir plus. J'avais ce que j'avais besoin pour faire mon épicerie, payer mon loyer, mettre l'essence dans mon auto, mais j'en voulais plus. Alors, le moyen, c'était la fraude. Alors, la sanctification plus aussi, l'amour plus. Chapitre 4, verset 10, il dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Alors, les Thessaloniciens, ils avaient démontré de l'amour envers la Macédoine, et probablement qu'il fait référence ici à une collecte qui avait été faite au moment d'une certaine famine dans la Macédoine. Mais après ça, l'apôtre Paul, il dit, « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Il dit, « Ce que vous avez fait, là, c'est très bien, mais vous n'avez pas fini. » C'est pas ça qui met un point final à votre amour. L'amour doit abonder toujours plus. Alors, est-ce que j'aime plus? Est-ce que mon amour est en action encore autant qu'elle l'était dans les meilleurs jours de ma vie chrétienne? Ça devrait, puis ça devrait continuer d'augmenter. Et finalement, on arrive au cœur de, si on peut dire, du questionnement ou du problème des chrétiens de l'Église de Thessalonique, au chapitre 4, verset 13, que je vous ai lu tantôt, je vous le relis. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Alors, les persécutions, l'adversité que vivaient les chrétiens soulevaient des questions. Ils se posaient des questions. « Que va-t-il se passer avec nos bien-aimés qui sont décédés dans le Seigneur? » qui sont décédés, qu'est-ce qui va arriver avec eux autres quand le Seigneur va revenir? Est-ce qu'ils vont manquer le retour du Seigneur? Est-ce qu'ils pensaient ça? C'est pas le cas parce que le premier événement que l'apôtre Paul va leur mentionner, la première chose qui va arriver, ça va être la résurrection justement de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Toujours au verset 4, le verset 13, il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Alors, je ne vais pas faire une étude approfondie sur l'eschatologie, mais seulement souligner quelques points que le texte ici de l'apôtre Paul nous dit de façon assez claire. La première chose qu'on apprend de ce verset-là, c'est que l'ignorance, ce n'est pas acceptable. Les chrétiens, ils doivent être caractérisés par la connaissance et non pas par l'ignorance. Et ça, non seulement dans l'eschatologie, mais dans tous les domaines de la vie chrétienne. J'ai aidé des frères, un couple de frères et sœurs dernièrement, puis de Québec, pas quelqu'un d'ici, de Québec. Puis l'affaire qui m'a sauté le plus aux yeux, c'est des chrétiens quand même d'une dizaine, 10, 15 ans. La première chose qui m'a frappé, c'est leur méconnaissance, c'est leur ignorance de la parole de Dieu, des principes de base de la parole de Dieu dans leur vie. C'est triste à voir. Alors, on doit savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. C'est quoi le sort qui nous est réservé sans nécessairement avoir tous les détails. Verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça, c'est la base, le minimum. Nous autres, les chrétiens, quand le Seigneur va revenir, si on est déjà décédé, on va ressusciter, on va revenir à la vie. On va revenir à la vie. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, croyons aussi que nous aussi, nous ressusciterons. Jésus a vaincu la mort pour nous. Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est l'œuvre salvatrice de Jésus qui se poursuit, qui va se compléter. Alors, le salut, quand le Seigneur Jésus va revenir sur la terre, chercher son Église, il va descendre dans les airs, venir chercher son Église, là, le salut, la récompense finale va nous être donnée. En ce moment, on est sauvés en espérance. Le salut, on est. Ce qu'on peut dire, on est embarqué dans l'autobus du salut, mais on n'est pas rendu. On n'a pas encore touché la récompense. C'est l'œuvre salvatrice de Jésus qui se poursuivra. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Il a pris sur lui la peine de nos péchés. Puis l'apôtre Paul, il donne un peu de détails de ça aux Romains. Romains, chapitre 6, les versets 8 à 11. Il dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » La mort, Jésus est ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, alors ça, on a besoin de savoir ça, on a besoin d'avoir cette conviction-là. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On est mort au péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire que Dieu nous voit à travers le Seigneur Jésus comme si on n'avait jamais péché. On est mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vie. Jésus est ressuscité, puis il a la vie, puis on l'a à travers de lui. Et il dit une chose au verset 13, il dit, « Comme les autres qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont point d'espérance. » Alors, c'est différent pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Eux, ils ont une bonne raison d'être affligés. Parce que ceux qui étaient leurs bien-aimés, qui étaient incrédules comme eux, puis qui sont décédés, eux n'ont aucun espoir. Aucun espoir d'aller dans la présence du Seigneur. Et le chapitre 5 est dédié justement à eux, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On va le voir dans quelques instants. Bon, au chapitre 5, verset 1 à 3, il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Alors, pour ce qui est du temps, il parle de ça juste avant d'avoir parlé à l'enlèvement de l'Église. Juste après avoir parlé d'enlèvement de l'Église. Alors, on présume que c'est pas deux événements différents, mais c'est un, C'est la phase 2 du même événement. C'est la suite de ce qui va se produire quand le Seigneur va rentrer, va venir chercher son Église. Là, on n'a pas ça en détail. Peut-être que vous allez me dire, ouais, il y a la grande tribulation. On n'a pas ça en détail, mais ça semble être le même événement, la suite, la phase 2 de ce qui va se passer après que l'Église va avoir été enlevée. Le jour du Seigneur, ce n'est pas pour les croyants. Quand il dit ici qu'il parle du jour du Seigneur, c'est pas pour les croyants. Les croyants ne sont plus là. Au chapitre 5, les croyants ne sont plus là, sont partis. C'est pour les non-croyants. Pour eux, ils n'étaient pas prêts. Ils sont surpris. Ils sont surpris, puis l'apôtre Paul, il dit comme une femme enceinte. Comme une femme enceinte qui se met à avoir des douleurs de l'enfantement. La femme enceinte qui a un gros ventre, elle ne se doute pas qu'il y a un bébé qui s'apprête à sortir. Puis si vous parlez aux vieilles infirmières qui travaillent en obstétrique, qui ont travaillé en obstétrique, ils vont vous dire qu'ils ont toutes connu ça, des cas comme ça. Les madames qui se présentent à l'urgence parce qu'ils ont mal au ventre, puis qu'ils les envoient en obstétrique, puis l'infirmière, elle leur dit, pas de mal de ventre, madame, là. C'est un bébé qui s'en vient, puis l'obstétricien va être là dans 5 minutes. C'est ça. Alors, c'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, ils vont être surpris comme la femme qui se met à avoir des douleurs pour enfanter. Puis, le sort qui leur est réservé, l'apôtre Jean nous le décrit dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Moi, le 10 mars 1977, sur l'heure du dîner, j'ai lu ce passage-là, j'ai lu ce verset-là. Quelqu'un m'a fait lire ce verset-là. Et l'après-midi, cet après-midi même-là, je me suis mis à genoux dans ma chambre, puis j'ai demandé pardon au Seigneur, puis j'ai demandé au Seigneur de me sauver. Parce que j'ai vu que c'est ça qui m'était réservé, puis que je n'étais pas intéressé à ça. C'est ça qui attend les incrédules. Eux, ils ont des raisons d'être affligés. Dans le récit de l'homme riche et de Lazare, c'est dans Luc 16, au verset 20, l'homme riche demande à Abraham d'envoyer quelqu'un avertir ses frères. Pourquoi qu'il leur demande ça? Oui, mais pourquoi qu'il ne veut pas qu'il... Oui, mais pourquoi? Hein? Oui, il dit, quand je souffre cruellement dans cette flamme, je ne m'entends pas, je ne m'entends pas. 1 Corinthiens chapitre 15, pour compléter ça, là. 1 Corinthiens 15, verset 13. L'apôtre Paul, il dit, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Alors, Paul aborde la résurrection dans sa première épître aux Corinthiens. Plus loin, dans le même chapitre 15, les versets 51 à 53, il dit ceci. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. » Incorruptible. Les morts en Christ ressusciteront. De quoi qu'il parle, là? Il parle de la même affaire que l'apôtre Paul qui a parlé aux Thessaloniciens quand il dit au verset 13, « Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous allez monter au ciel. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront et nous serons changés. Nous autres, qui vont être restés, on va être changés. Car il faut que le corps corruptible revêt l'incorruptibilité. C'est ça que Jean-Marc va nous parler la semaine prochaine. Et que le corps mortel revêt l'immortalité. C'est ça qui nous attend. C'est pour ça qu'on est chrétien. C'est pour ça l'apôtre Paul dit que, oui, les afflictions, les tribulations, il faut passer par-dessus puis regarder au Seigneur, s'attendre au Seigneur, faire confiance au Seigneur. Alors, c'est la foi faire toujours confiance au Seigneur. L'amour de plus en plus, de progrès en progrès, puis l'espérance de continuer de regarder vers... Et finalement, l'apôtre Paul, dans la fin de ses lettres, il dit ceci, chapitre 5, versets 16 à 18. Ça, c'est finalement un peu l'attitude qu'on devrait avoir de façon générale. Il dit « Soyez toujours joyeux ». Il dit ce que la position que vous avez, peut-être que vous avez des tribulations, mais soyez joyeux parce que dans l'éternité, les tribulations que vous vivez en ce moment, ce n'est pas grand-chose. Après ça, il dit « Priez sans cesse ». Bien, si vous voulez être capable de rester collé sur le Seigneur, il faut prier, il faut avoir une relation avec lui. Puis après ça, il dit « Rendez grâce en toutes choses ». Soyez reconnaissant en toutes choses, mais d'une façon plus spécifique, soyez reconnaissant pour le salut que vous avez, parce que c'est ça la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et le dernier passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Alors, ne lâchons pas, ne lâchons pas, et c'est le Seigneur qui va nous aider, c'est le Seigneur qui va faire ça pour nous si on s'attend à lui, si on se confie en lui. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen.